C'est sûr, des fois, on entend des paroles, on entend des choses qui viennent de la part du Seigneur, puis ça ne fait pas toujours notre affaire. Mais à quelque part, je sais que le Seigneur, c'est notre bien qu'il veut. Il n'y a rien que le Seigneur nous demande que ça ne nous amène pas du bien. Pour nous, pour lui, puis pour les autres. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous faire entrer dans son plan parfait. On va s'en remettre à sa grâce encore ce soir pour qu'il vienne transformer nos vies par sa parole. Alléluia. Oui, Seigneur, je te demande ce soir de continuer ton œuvre au milieu de nous. Tu es présent, mais ce qu'on veut, Seigneur, c'est de donner une pleine liberté d'agir dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, que ta parole puisse changer notre raisonnement, notre intelligence, que tout commence à penser comme quoi toi tu penses les choses, Seigneur, que tout soit renversé. Seigneur, viens nous équiper aussi avec dans notre cœur, dans notre intérêt, de ta force qui va nous faire avancer, aussi ton zèle qui vient de ta parole, pour qu'on soit des témoins efficaces, Seigneur. Rends-nous efficaces. Quand que je parle d'être efficace, je parle qu'il y ait du résultat, que ta parole se répande, qu'il y ait des âmes qui acceptent Jésus. Nous réclamons, Seigneur, ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire ce soir. Moi, je crois que Dieu est présent et que Dieu est en train d'agir. Parce que plus qu'on avance dans le cours, ça me bénit, ça me fortifie. Puis c'est vrai, ça a changé ma vie, puis ça va continuer à la changer jusqu'au bout. Puis plus qu'on a dit, ou comme la semaine passée, on a dit, si on commence à faire un petit peu et par petit peu, d'en faire un petit peu plus, on se renforcit. Alléluia. On a vu aussi la semaine passée qu'on était comme qu'il fallait se préparer pour faire ce travail-là, qu'il fallait se préparer premièrement pour aller chercher la force spirituelle dans la prière, parce que les combats, les luttes, le travail, c'est pas dans la chair que ça se passe le plus. On a besoin de la force que le Seigneur veut nous équiper. Cette force-là, mais est réelle. Tout à l'heure, notre frère a dit, la joie du Seigneur est notre force. C'est vrai que dans sa joie, quand elle nous est procurée, ça nous produit de la force, mais c'est pas le seul endroit où on trouve sa force. Quand il nous parle ailleurs dans parole, il dit d'aller chercher par sa force souveraine d'être revêtu de toutes les armes de Dieu. À quelque part, il y a de quoi qu'on peut aller réclamer et aller chercher une force qui va nous équiper, qui va nous donner du courage d'avancer. Ben, je sais pas si quand on réfléchit au fait comment est-ce que les apôtres, quand ils ont fini martyrs, quelle force qui pouvait les animer? C'est sûr que c'est pas la force humaine terrestre, parce que tu passes pas à travers. Faut que tu aies une force qui vient du surnaturel. Tu peux pas aller avec joie te faire bouffer par un lion. Mais quand tu le fais rempli du Saint-Esprit, ça passe mieux. Gloire au Seigneur pour sa force qui peut nous communiquer. Mais pour aller au front, pour aller parler de sa parole, on a besoin quand même de la force, parce que dans l'humain, la force n'est pas immense. On a besoin aussi de se préparer pour cette œuvre-là, de se préparer dans que le Seigneur ouvre des portes, mais on a vu que le Seigneur va ouvrir toutes les portes sauf une. Cette porte-là, c'est notre propre porte qu'on s'est mis pour s'empêcher de le faire. Puis c'est cette porte-là qu'il faut comme se préparer et dire, faut que j'y aille, je rouvre la porte, je donne une pleine liberté de m'utiliser. Puis Seigneur, quand tu vois les occasions devant moi, je veux les utiliser. Quand que cette porte-là est ouverte, notre terrain est en train de se préparer, puis il va aboutir à quelque chose. Continuer à se combattre, à se préparer, il faut réaliser qu'on est en train de combattre contre des puissances invisibles, contre le monde spirituel. Puis ça, on le répète souvent, parce que ça fait partie de la guerre qu'on est en train de mener, parce que l'autre force spirituelle amène les gens qui sont captifs, puis nous autres, on est menés par une force spirituelle qui vient de Dieu, qui nous mène au combat pour aller déraciner ces gens-là, puis les amener au salut. On a besoin de se préparer intérieurement pour combattre, pour savoir à qui ce qu'on a à faire, comment est-ce qu'on peut combattre, puis ainsi de suite. Puis on apprend au fur et à mesure qu'on apprend des messages de la parole de Dieu, puis aussi qu'on apprend en essayant, on réalise des choses, puis après ça, on est de plus en plus efficace. On a vu aussi qu'il fallait se préparer comme le cultivateur se préparait à récolter en espérance. Il n'est jamais sûr que quand il sème, ça va produire. Puis c'est par l'espérance, il sème avec espérance. Mais nous autres ici, quand on part pour aller semer la parole, c'est dans l'espérance de récolter. On n'est jamais sûr du résultat. On se fie à la grâce de Dieu. Il nous a dit, va semer. Le reste, pour ce qui est de la récolte, ça dépend de lui. Puis, le cinquième point qu'on n'a pas touché la semaine passée, qui était se préparer, parce qu'il y a une préparation en cours au niveau, faut que je sois prête à les introduire, à accepter Jésus en tout temps. Ça, c'est le point qu'on va voir ce soir. Le verset sur lequel on va se baser, c'est 2 Corinthiens 6, le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, puis au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ça nous dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Rappelez-vous, quand on a accepté Jésus, à un moment donné, c'était le temps favorable, Jésus nous a exaucés. Jésus, il nous a sauvés. On a reçu des guérisons, on a reçu des délivrances. Premièrement, aussi, on a reçu le salut, quand on est venu à lui. Il y avait un temps favorable qui était mis devant nous à un moment donné, puis on a rentré dedans, puis on a saisi. Puis Dieu est allé au rendez-vous pour le faire, parce que c'était son temps. Mais c'est quand ce son temps? On peut-tu le dire, c'est quand son temps, qui est son temps favorable? Qu'est-ce qu'on lit dans ce verset? Voici maintenant le temps favorable, puis voici maintenant le jour du salut. De la part de Dieu, son meilleur temps, son temps favorable pour sauver et guérir, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. C'est toujours le temps favorable pour Dieu, pour guérir, parce qu'il est toujours prêt à guérir, à délivrer, puis à sauver. Ce temps-là, c'est maintenant. Fait que quand on se prépare mentalement à dire « je m'en vais rencontrer les gens autour », faut que je sois prêt en tout temps, faut que je sois prêt à les faire accepter Jésus, parce que c'est maintenant le temps favorable pour qu'il accepte. C'est pas dans 6 mois, c'est pas la semaine passée, c'est maintenant là. Dans notre préparation, dans cette parole-là, ça peut nous parler à nous autres comme ça peut parler pour les gens autour. Pour nous, ça veut dire « c'est aujourd'hui le temps de conduire à Jésus ». Chaque fois qu'on rencontre des gens, on doit chercher à les amener à la repentance. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'ils vont être encore là demain. Si on a passé à côté du moment favorable qui était maintenant, quand tu es avec, c'est le temps de l'amener à repentance, tu t'es passé à côté de ça, il est perdu. S'il meurt de même, il est fait. Notre but, quand on parle, qu'on cherche à établir une conversation, ça doit être toujours, ils doivent accepter le Seigneur. Ils doivent le laisser rentrer dans leur vie. Pensez à chaque fois que vous pouvez, que vous allez être en contact avec des gens demain ou après-demain. Il faut toujours que vous soyez prêts, préparés mentalement. Il faut que je les introduise à Jésus. Il faut qu'ils acceptent le Seigneur. C'est le temps favorable, c'est maintenant. C'est pas d'attendre. Il faut devenir habile à les conduire dans des... Quand on établit nos conversations, là, il faut devenir habile à développer notre conversation pour qu'on en vienne à les faire accepter. C'est le but. Une fois qu'ils ont dit « oui, j'accepte Jésus, oui, je reçois qu'est-ce que tu me parles », ça se fait, drette là, le Saint-Esprit vient, il pardonne ses péchés, puis il reçoit le Saint-Esprit, puis là, il y a une force en lui qui fait qu'il devient une nouvelle créature. À partir du moment qu'il relâche. Fait que cette parole-là est pour nous autres, pour nous dire, c'est tout le temps de les faire accepter. Tu sais, des fois, on dit, oh, ils sont pas encore prêts. Ça, c'est un mensonge qui vient du diable. C'est maintenant le temps pour qu'ils acceptent Jésus. Faut toujours être prêt quand on arrive devant des personnes à réagir et à les amener à Jésus. Suite. 1 Pierre 3,15, ça nous dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ça nous dit, étant toujours prêt à nous défendre. Quand on se lève de matin, le Seigneur, là, je me prépare, je vais être prêt à rencontrer la personne, puis je vais être prêt à l'introduire, à accepter Jésus. On a à se préparer Pour quand on rencontre ces gens-là, faut qu'ils acceptent. C'est pareil comme dans un duel au Far West. Il était prêt à dégainer. S'il s'en allait là dans un duel, puis que l'autre, il savait même pas qu'est-ce qu'il faisait là, l'autre va tirer dessus, puis il aura jamais rien vu. Mais quand tu sais que tu t'en vas au duel, là, tu te prépares, tu l'essayes 2-3 fois, ouais, s'il sort bien. Si ça accroche, tu vas pas te présenter là, mais, tu sais, tu te prépares mentalement, là, tu dis, wow, tu te réchauffes, tu peux aller t'exercer un peu en arrière. Mais c'est la même chose, spirituellement, là, faut s'exercer. C'est un duel. Mais c'est pas un duel contre les personnes. Mais l'ennemi, lui, il veut garder, puis nous autres, si on les veut à Jésus. Qui va être le plus rapide? Qui va avoir les paroles? Qui va pouvoir changer leur vie? Faut se préparer. Sinon, si on n'est pas prêt, l'occasion se présente, on lui parle de rien, on les revoit plus, jusqu'à la prochaine fois, s'il y en a une. C'est le temps maintenant de les faire accepter, parce que demain, il peut être trop tard. Si la personne est morte, c'est fait. Face aux gens, cette parole-là qu'on vient d'entendre, Dieu nous dit, dans sa parole, c'est maintenant le temps pour que le jour du salut, puis c'est maintenant le temps aussi qu'il donne ses guérisons, mais on peut leur dire, c'est maintenant qu'il faut que tu acceptes le Seigneur. Mais si tu y dis pas, lui il va dire, je suis pas encore prêt. Oh, je verrai plus tard. Oh, je vais attendre, mais que je sois vieux. Faut que tu, ces personnes-là, tu leur dis, ce verset-là, tu peux te servir de ce passage-là. Dieu te dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Si on sert de la parole de Dieu et qu'on y amène ça à cette personne-là, on renverse le raisonnement qui pense, je mettrai ça plus tard. Ce passage-là peut servir pour amener des gens à abandonner leur rébellion. Parce que si les gens y passent l'occasion puis qu'ils remettent ça à demain, qu'est-ce qui se passe? Ils demeurent dans la rébellion face à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe s'ils demeurent dans la rébellion? Bien, ils sont encore dans le péché. Et qu'est-ce qui se passe s'ils sont encore dans le péché? Bien, ils sont séparés d'avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe s'ils continuent à être séparés d'avec Dieu? S'ils meurent, ils s'en vont directement dans l'attente du jugement dernier, puis être jetés dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Chaque moment de résistance face à Dieu, chaque moment de continuité à se rebeller contre Dieu, cette personne-là demeure sous la colère de Dieu, mais toujours un risque de se ramasser dans l'étang de feu, ce que le monde appelle l'enfer. On ne doit pas entretenir la rébellion. Pense-y, on verra plus tard. Tu viens de dire, continue à rester dans le chemin de la rébellion. C'est maintenant qu'il est le temps que tu abandonnes ta rébellion, que tu tournes dans l'obéissance au Seigneur et à sa parole. C'est maintenant le jour où Dieu veut que tu sois sauvé, parce que pour Dieu, il est déjà prêt à vouloir te sauver. C'est le moment présent, il est prêt au salut, puis il est prêt à te guérir, puis il est prêt à te délivrer. Un autre argument qu'on peut dire dans le même sens pour dire aux gens, dans Hébreux 3:15, ça nous dit, « Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Il avait entendu parler, c'est des gens, c'est le peuple juif, il avait entendu parler de la parole de Dieu, de ce que Dieu s'attendait d'eux autres, puis ils ont endurci leur cœur. Puis on continue à vivre une vie de révolte, de rébellion contre Dieu, puis on attire le jugement de Dieu. Quand on arrive devant quelqu'un, puis la personne résiste, tu peux lui dire, si aujourd'hui tu entends sa voix, bien là tu es en train de l'entendre parce que le royaume de Dieu s'est approché de toi. Je suis en train de te dire les paroles par lesquelles tu peux être sauvé. C'est maintenant le temps qu'il faut que tu acceptes Jésus. C'est maintenant le temps qu'il faut que tu rentres dans son royaume. Il y a un amen à quelque part. On continue, on est rendu au chapitre 14. Semons de toutes les façons. Je vais juste vous introduire avec un verset que je n'ai pas lu la dernière fois. Semer la semence, la parole de Dieu, l'annoncer de toutes les façons. Ecclésiaste 11:6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Dès le matin, sème ta semence, puis rendu le soir, continue à en semer. Tu sais pas ce que c'est que tu vas récolter. Tu sais pas si ce champ-là va être bon, ou si l'autre va être bon, ou si les deux vont être bons. Relâche tous les points de semer. C'est ça que ça veut nous dire. Semer la parole de toutes les façons. Si on regarde là, de toutes les méthodes qui peuvent être utilisées, des méthodes d'évangélisation individuelles, du bouche-oreille, quand tu rencontres quelqu'un, tu y parles. De ta bouche à son oreille, tu y dis la vérité de la parole de Dieu. C'est une méthode d'évangéliser. Excusez. Il y a la distribution de traités, la distribution de Bibles, si on continue à faire des sondages, puis même individuellement, on peut aller faire du porte-à-porte, on peut aller dans un parc, on peut aller dans des endroits publics, on peut aller partout individuellement, personnellement. Ça peut être au travail, ça peut être même à la maison, quand notre conjoint ou nos enfants sont pas convertis. On peut établir des nouveaux contacts. Pensez à évangéliser en établissant des nouveaux contacts. On va dans les organismes communautaires, on s'inscrit, on fait du bénévolat, puis on le sait qu'on va faire de nouveaux contacts, qu'on va finir par parler du Seigneur à ces personnes-là. C'est des méthodes que le Seigneur veut qu'on utilise. D'aller dans le monde, s'impliquer à quelque part, et apprendre à connaître d'autres personnes. Parce que c'est sûr que nos proches, ils ont déjà été évangélisés, puis on continue à arroser ce qui a été semé. Bon, on peut sortir, aller rencontrer des gens ailleurs, dans des organisations, n'importe quelle organisation, faire un petit peu de temps de bénévolat, se faire de nouveaux contacts, puis à long terme, il y a des portes qui vont s'ouvrir. On peut faire des activités sociales, des activités sportives, on peut organiser des fêtes chez nous, inviter nos amis, nos voisins. J'en connais des chrétiens qui ont fait ça. Quand ils ont déménagé dans une rue, ils ont invité tout le monde de leur rue à venir comme dans une petite fête qu'ils ont faite chez eux, puis ils ont dit à tout le monde qu'on était chrétiens, puis que, ainsi de suite, puis ça a ouvert des portes. Toutes les occasions sont bonnes. Semez la parole de toutes les façons. Quand dans la parole de Dieu, on a déjà parlé, mais on en parle encore là, un semeur sorti pour semer. À quelque part, il y a quelqu'un qui sort, puis il sème. Toutes les manières. Lui, il a semé sur le long du chemin, il a jeté de la semence dans des endroits pierreux, dans des épines et des ronces, puis dans le bon champ. Lui, il se casse pas la tête ou ce qu'il sème, il garoche, puis il parle. Sans juger personne qui reçoive, il leur en donne, puis accepter Jésus. C'est ça qui est l'appel. Puis tu sais pas que c'est qui va produire. Mais on le sait que celui qui sème peu moissonnera peu, puis celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il y a de l'évangélisation de groupe aussi qui peut être faite, des réunions spéciales organisées par l'Église. Chaque fois qu'il y a une réunion spéciale organisée par l'Église, comme une cabane à sucre, un café chrétien, une sortie dans le parc, impliquez-vous, allez-y avec le groupe. Peut-être vous ne ferez pas grand-chose cette fois-là. Peut-être que la prochaine fois, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez pouvoir y parler de votre expérience avec Jésus, puis de l'introduire, accepter Jésus. Utilisez toutes les occasions d'inviter quelqu'un. Même si ça fait 20 fois que tu l'invites, puis est venu 20 fois, réinvite-la une 21e fois. Il faut se dire, cette personne-là devrait être en train de louer le Seigneur puis servir le Seigneur dans son Église. Toutes les personnes qui nous entourent devraient être en train de servir Dieu. Toutes les manières sont bonnes, les occasions sont bonnes d'inviter ces gens à venir dans des réunions spéciales. Puis, peut-être vous ne le saviez pas, mais à chaque fois qu'on organise une réunion spéciale, c'est dans le but que vous les invitiez à venir. Quand on fait des réunions d'évangélisation, c'est pas juste parce qu'on a le goût de faire une réunion pour se faire plaisir. Parce que moi, la cabane à sucre, j'aurais resté chez nous, moi, 14$ du billet. Mais j'y étais pour l'œuvre du Seigneur, parce que je savais qu'il était pour être un groupe, là, puis on invite tous ceux qu'on connaît, puis on s'en va pour avoir un party ensemble, pour louer le Seigneur, glorifier son nom, puis aussi pour parler de sa parole. Puis on le sait que le Seigneur utilise ces occasions-là pour toucher le cœur de ceux qui vont être là. Fait qu'à chaque fois qu'on fait une réunion spéciale à l'Église, une réunion, même un café chrétien, invitez-les. Hey, il y a une réunion spéciale qui se produit. Viens, ça coûte rien. C'est une activité culturelle, c'est une activité sociale, puisque le monde va entendre de la musique, va entendre des témoignages, va entendre des fois c'est des films. Mais c'est de même que la parole de Dieu est semée de toutes les façons. Tout est bon, que ce soit organisé à l'église, les réunions spéciales, ou à l'extérieur, dans les salles ou dans des parcs. Toutes les réunions sont bonnes, toutes les occasions sont bonnes pour inviter quelqu'un. Et je vais vous dire encore plus fort que ça, toutes les réunions qu'on fait ici, que ce soit une réunion du mercredi ou une réunion du dimanche, c'est encore une très bonne occasion d'inviter quelqu'un. Savez-vous pourquoi? Parce que premièrement, la parole de Dieu est enseignée, puis deuxièmement, Dieu est présent pour toucher les cœurs et changer des vies. Puis Dieu veut le faire. C'est son temps qui est le temps favorable, puis c'est maintenant qu'il veut sauver des gens. Invitez-les. Lassez-vous pas des invités. Ça me fait penser à la parabole quand il avait envoyé. Le party est prêt, les bêtes sont tuées, la table est mise, puis là, il invite les gens à venir à ma salle de mes noces. Puis tous se mirent à s'excuser et à dire, j'ai pas le temps. Mais peu importe, l'idée c'est le temps, venez. Nous autres, c'est notre tâche, c'est notre job d'aller chercher puis de les inviter à venir. S'ils refusent ou qu'ils acceptent, c'est pas notre problème. Nous autres, on les invite. Ça, c'est notre tâche. On peut faire des annonces dans les médias, des annonces dans les journaux, à radio, à télévision. Toutes les places sont bonnes pour semer. On peut faire des présentations musicales, de théâtre, des sketchs, des mimes. On peut avoir des prédicateurs invités. On peut faire des croisades d'évangélisation. Que ce soit de l'évangélisation en groupe ou de l'évangélisation individuelle, il y a un point en commun dans ces deux systèmes-là, c'est que tu es en train de répandre la parole de Dieu. C'est ça qui est le point en commun. C'est ça à ce qu'on est appelé, d'aller parmi tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça qui est la grande commission. C'est le sujet qu'on est en train de parler, la grande commission. C'est la tâche qu'on est appelé à rentrer. Il y a tiens, amen à quelque part. Je voudrais attaquer le point numéro 15. Il me reste 10 minutes. J'espère de passer à travers parce que c'est super qu'est-ce qu'on va entendre ce soir là-dedans. Puis je voudrais pas le commencer puis être obligé de le finir à moitié chemin. Alléluia. L'outil principal du chrétien. Il y a plusieurs outils ou armes à notre disposition, savez-vous ça? Dieu ne nous envoie pas à nu. Il nous équipe. Il nous équipe de quoi? Mais d'armes. Puis il nous donne aussi des outils parce qu'on a des choses à faire. Puis c'est avec ses armes à lui et ses outils à lui qu'il veut qu'on travaille. J'ai une autre étude qui a été préparée, puis peut-être plus tard qu'on va l'emmener, c'est préparer pour la guerre. On va connaître les armes et la puissance de Dieu à notre disposition pour travailler. Mais ce soir, on va voir un point, un arme ou un outil que le Seigneur veut qu'on utilise pour travailler. Puis il veut qu'on réalise ce soir l'importance de cet outil-là. Ça va nous... Maintenant, nous allons voir l'outil principal. Okay, ça, je l'ai dit. Dieu veut nous équiper et nous apprendre à combattre. Le psaume 18:34 nous dit, « Il exerce mes mains au combat et mes mains tendent l'arc des reins. » Mais il exerce mes mains au combat. Dieu, il veut nous rendre habiles au combat. Il veut nous rendre efficaces. Il veut nous rendre... Qui va aller en guerre et perdre? Puis Dieu non plus veut pas que son peuple aille au front et se fasse massacrer. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on aille au front puis qu'on parte comme en vainqueur. Savez-vous que quand Jésus est mort sur la croix, c'est pas une défaite, ça. C'est une victoire. Parce que par le fait même, les prophéties ont été accomplies à son sujet. Puis, quand il a ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort puis il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. C'est une victoire d'être mort à la croix. C'était pas une défaite. Comme c'est une victoire quand les chrétiens ont passé par des persécutions. Mais nous autres, il nous envoie au front pour remporter des victoires. Puis il dit, il exerce mes mains au combat. Ça veut dire que tu es en train de te battre, mais plus que tu te bats, tes mains deviennent de plus en plus exercées pour être capable de faire les mouvements qu'il faut pour être vainqueur. En autant qu'on part pour combattre, et en autant qu'on sert de l'épée aussi pour combattre. Les armes avec lesquelles nous combattons, ils sont pas charnels. On l'a déjà vu dans d'autres versets. Ça nous dit, ils sont pas charnels, mais ils sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Puis, cette arme-là qu'on va parler ce soir, c'est pas de quoi de puissant à peu près. C'est très puissant. C'est une puissance de Dieu qu'on utilise. Quelque chose de, vous pouvez pas vous imaginer la grandeur de la puissance de cette arme-là qu'on va utiliser. Puis c'est avec cette arme-là qu'on s'est converti. Parce que quelqu'un l'a utilisé à quelque part. L'arme qu'on va présenter, c'est la parole de Dieu. L'Évangile, la parole de Dieu, la Bible. Ce qu'il y a là-dedans, là, c'est pas des paroles écrites par n'importe qui. C'est Dieu qui a parlé à quelqu'un pour lui dire « Écris ça ». Lui, sous l'inspiration de l'Esprit, il a écrit. Ce qui est écrit là, Jésus dit ça, ça demeure éternellement. Il dit « Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point ». Ça, c'est du plus solide. On pense que c'est solide. La minute qu'il y a un petit tremblement de terre, on shake. Mais ça, ça va passer, ça va disparaître. Le ciel et la terre vont passer. Mais sa parole passera point. Dans Romains 1:16, ça nous dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » J'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Par sa parole, Dieu a créé l'univers. Il a changé des choses par sa parole, puis il dit que sa parole, on l'a entre ses mains. Entre nos mains. C'est une puissance qui sert à quoi? C'est une puissance pour le salut. Parce que quelqu'un a utilisé cette puissance-là, la parole de Dieu, on a été sauvé. On a cru à ce qui était écrit, puis notre vie a été changée. La parole de Dieu, c'est aussi un épée. C'est l'épée de l'Esprit. En Éphésiens 6:17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Savez-vous que le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour combattre? Jésus, quand il était sur la terre, il y a eu des combats contre le diable, puis même contre des humains, puis il prenait des versets, puis il répétait les choses qu'il avait entendues du Père, les choses qui étaient écrites dans l'Ancien Testament, puis il combattait avec ça. Jésus combattait avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour convaincre les gens. Le Saint-Esprit se sert de la parole qui est annoncée par notre bouche et il s'en sert comme épée, puis il frappe, puis il fait son œuvre. La parole de Dieu est efficace parce qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans Hébreux 4:12, elle dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, puis elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. » La parole de Dieu fait prendre conscience de leur état de péché. Ça leur fait prendre conscience que Jésus est venu pour eux autres. Ça leur fait prendre conscience que s'ils meurent dans le péché, ils s'en vont en enfer. Ça leur fait prendre... Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour leur faire prendre conscience. On a dans notre main et dans notre bouche les paroles de Dieu que le Saint-Esprit va utiliser et il va pénétrer le cœur de cette personne-là, il va pénétrer son esprit, il va pénétrer ses jointures, il va pénétrer l'intérieur de ses os. C'est plus efficace que du WD-40 parce que WD-40, c'est une huile pénétrante qui pénètre la rouille. Mais le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu qui fait un effet pénétrant pour imprégner le cœur d'un homme pécheur, pour y changer sa vie, puis le transformer, puis le rendre en une nouvelle créature. Le Saint-Esprit se sert de cette épée qui est la parole de Dieu pour sauver les hommes. La parole de Dieu est utile pour enseigner et convaincre. dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire. Pour convaincre. La parole de Dieu est utilisée pour convaincre. Ça veut dire que quelqu'un, il croit pas, là. Oh, ben, moi, je croyais pas. Parlez de la parole de Dieu, puis ça va le convaincre. Parce que c'est une puissance pour l'amener au salut. Dieu a choisi de sauver les hommes en réponse à la parole de Dieu qui est annoncée, qui est l'Évangile. Annoncez les versets de la parole de Dieu, puis les gens vont être transformés. Ils n'auront rien, ils peuvent rouspéter ce qu'on dit, mais ils n'auront rien à répéter à ce que Dieu dit. Parce que la parole va faire son effet, parce qu'elle est vivante, puis le Saint-Esprit l'utilise aussi. C'est pour ça qu'il faut l'afficher partout, la parole de Dieu. Il y a un passage dans l'Ancien qui dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur ta main, puis ils seront comme des frontaux entre tes yeux, puis tu les écriras sur les poteaux de ta maison, puis sur tes portes. » Ça veut dire, la parole de Dieu, mets-la partout. Affiche-la partout. Sur tes murs, chez vous. Partout où ce que tu vas en voyage, ou chez vous, quand tu te lèves, tu te couches, parle de la parole de Dieu. Parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. La parole de Dieu, elle peut nous faire progresser dans notre efficacité de sauveur d'âme. Saviez-vous ça? Ça nous dit dans 1 Timothée 4, verset 13 à 15, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Bon, au verset 15, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Plus qu'on va s'appliquer à étudier, à méditer, à regarder, à comprendre la parole, plus qu'on devient efficace. Plus qu'on devient transformé, plus qu'on progresse dans notre vie chrétienne, puis que ça devient évident pour tout le monde que ta vie change, parce que tu es nourri de sa parole, qui est une puissance qui va changer ta vie, puis que ça va sauver les autres. La parole de Dieu en elle-même a le pouvoir aussi de donner de la sagesse. 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu, les saintes lettres peuvent te rendre sage à salut. Sage dans le but d'être sauvé. Sage de marcher aussi dans le salut. Plus que tu vas te nourrir de la parole de Dieu, plus que tu vas devenir... Pardon? Efficace, on peut tous les nommer les termes qui peut découler d'une croissance, d'une vie qui croit. Mais surtout, dans ce passage-là, ça nous dit qu'on va devenir sage. Puis, regardez bien le prochain verset. Le sage s'empare des âmes. Le proverbe 11,30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. On dit que la parole de Dieu va nous rendre sages. On va devenir habile à manier l'épée. Parce que le Saint-Esprit va nous rendre habiles, on devient de plus en plus sage à utiliser conversations pour introduire les conversations, à les amener à accepter Jésus, en ayant espérance que Dieu est en train de faire son œuvre en même temps qu'on est en train de parler, puis que ces gens-là, on le sait, qui sont, pendant qu'on parle, sont en train d'être touchés par le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui pénètre comme une huile pénétrante, ça pénètre leurs os, leurs moelles, ça pénètre leurs âmes et leur esprit, et leur vie sont transformées. Ça nous dit que le sage, il s'empare des âmes. Si on veut grandir spirituellement puis devenir de plus en plus efficace, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit, je n'ai point honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance de Dieu. On n'a pas à avoir honte de ça. C'est ça qui fait notre gloire, qu'on peut s'appuyer sur des promesses qui sont les plus grandes et les plus précieuses promesses qu'on ne retrouvera jamais rien de semblable parce que c'est les seules qui vont s'accomplir. Le monde s'appuie sur des promesses qui viennent de médiums et d'astrologie. Ça s'accomplit pas. Et même s'il y aura une coïncidence qu'il y en a une de temps en temps qui s'accomplit, c'est rien de sûr. Tandis que nous autres, on est sûr qu'on détient les plus grandes promesses, les plus précieuses promesses qui viennent de Dieu lui-même, puis qu'il nous dit que c'est une puissance, puis il nous dit que le Saint-Esprit s'en sert quand on rouvre notre bouche, qu'on la répand, puis il dit, sème la semence. Sème d'un bord, dans un champ, sème dans l'autre, parce que tu sais pas ce que ça va produire, mais continue à semer.